Une vie, une œuvre, Louise Labbé, 1525, Lyon, 1566, Parcieux en Dombes. La jeune Louise Labbé, si sa date de naissance n'est pas absolument précise, a reçu une éducation, habituellement l'apanage des hommes de bonne naissance, familière du latin, italien et grec, autant que musicienne. Son frère François est maître d'armes. Il enseigne à sa sœur l'équitation et la pratique de l'escrime. Un père, cordier dans la ville de Lyon, un mari, qu'il est également, lui valent sans doute autant que sa grâce le surnom de Belle Cordière. Son œuvre, publiée par faveur royale, car elle est femme, en 1555, est composée de sonnets amoureux et d'élégies. Jean de Tournelle la titre « Œuvre de Louise Labbé, lyonnoise ». Vous aurez entendu « lyonnaise ». Louise Labbé suscite des poèmes d'admirateurs dans les siècles qui suivent. Ainsi, Aragon écrira « Quel étrange nom, la belle Cordière ! Sa bouche est rouge et son corps enfantin, elle était blanche ainsi que le matin. » Elle suscite aussi des scepticismes qui conduisent à nier son existence. Pour la spécialiste de la Renaissance, Michel Clément, il suffit de se promener dans les vieux quartiers de Lyon pour croiser son fantôme. Yves Bourget lui a demandé de la révéler à l'artiste Xue Fengshen. Xue a connu une mère chamane, une enfance dans des champs de lotus, des maîtres de peinture chinoise traditionnelle et l'ivresse de l'art occidental. Xue est fasciné par Louise Labbé. Yves Bourget signe, avec Laurent Polleré, Une vie, une œuvre, Louise Labbé. Nous sommes le lundi 17 janvier 2017. Deux femmes marchent sur les traces de Louise Labbé, la poétesse lyonnaise de la Renaissance. L'une est Michel Clément, professeur de littérature française à l'Université Lyon 2, spécialiste du XVIe siècle. La deuxième est Xue Fengshen, artiste plasticienne, originaire du Yunnan. Michel et Xue déambulent dans les rues de Lyon pour retrouver la ville de Louise Labbé. Quand le courant de la Renaissance irriguait la ville, l'architecture, l'art, à la faveur d'une prospérité économique, d'une imprimerie florissante, d'une pensée que l'humanisme éclaire.
Lyon comme base de vie, comme lieu de création, c'est exactement la position de Louise Labbé, puisque tu crées, tu es une artiste qui crée à Lyon, et à partir de Lyon, en tout cas en Occident. Ça me fait penser à Louise Labbé, qui est vraiment une artiste de Lyon à la Renaissance. Au moment où Lyon explose en termes économiques, en termes culturels, apparaît sur cette scène lyonnaise, très singulière, une femme. Comme toi, artiste comme toi, déplacée comme toi. Donc voilà, il me semble qu'il y a quelque chose de commun entre ta position et la sienne.
Super, je connais peu sur elle. J'ai hâte de parler un peu le poème, son personnalité, mais surtout le reste de choses que je ne connais pas.
Alors Louise Labbé, c'est une poétesse. Tu te parles tout de suite de poèmes, c'est par là qu'on la connaît. Même si elle n'a pas écrit que des poèmes, c'est peut-être la chose la plus connue de son œuvre. Elle a écrit aussi de la prose. Elle a écrit l'ensemble de son œuvre, justement, publiée à Lyon en 1555, donc au moment le plus propice à la culture humaniste à Lyon. Un des textes les plus connus, peut-être, c'est ce sonnet. Je vis, je meurs. Je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup, je ris et je larmoie. Alors, on va peut-être pas lire tout le sonnet, mais déjà, tu entends cette façon.
C'est de contraster le chaud, voilà. À droite, à gauche.
Voilà, ça, c'est à la fois la sensation et en même temps cette réflexion intellectuelle des contraires. Hein. Cette mise en scène des contradictoires pour dire que l'amour est une situation invivable. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Donc, ça, c'est l'art de cette femme qui s'est imposée en 1555, donc dans une ville très riche en termes d'impression, en termes d'imprimerie, mais où on n'imprime pas encore beaucoup de femmes. Donc vraiment, il y a quelque chose de surprenant avec cette émergence d'une femme qui s'est immédiatement posée comme un auteur, puisqu'elle publie ses œuvres. C'est le nom qu'elle donne, hein, œuvre de Louise Labbé. Voilà. On est en période de domination masculine complète, un peu plus complète qu'aujourd'hui, donc pas d'accès à l'école, pas d'accès aux fonctions sociales. Donc elles sont dans l'espace domestique et pas sur la place publique. Et c'est le problème de Louise Labbé, elle le dit, dès le début de ses œuvres, c'est très honteux pour une femme de venir sur la place publique.
Ah.
Or, être
ah, oui,
publié, oui. Si tu es un artiste, tu es un écrivain en l'occurrence, tu es publié, oui. Et être publié, c'est être public. Oui. Et une femme publique, c'est une femme soupçonnée du pire, soupçonnée d'être une prostituée, d'être une courtisane, oui. Et c'est immédiatement l'image qu'elle va avoir, la légende noire va s'accrocher à Louise Labbé dès le XVIe siècle.
Parce que dans la tradition, c'est les femmes antiques, elles sont à la maison, voilà. Préparent bien les affaires.
Voilà. Donc modeste, humble, ne prenant pas la parole, ne venant pas dans l'espace public et surtout ne parlant pas publiquement d'amour.
D'accord.
C'est la chose la, peut-être la plus taboue. Dire à l'amour.
N'ouvre pas cette tiroir.
Voilà, voilà. Tiroir fermé.
Tiroir
le tiroir
fermé.
Est fermé. Et donc,
elle ouvre plein de tiroirs.
Mais qu'une femme ose réclamer des baisers, parler de la saveur, de la douceur des baisers, ouais. C'est la preuve qu'elle est nécessairement mauvaise.
Comment Louise Labbé, elle commence à écrire tout ce poème-là, comme ça, tac.
Alors voilà, eh ben, tu poses exactement la question.
Cette lumière de poème exprimé, ça vient de où? Il y a bien pas qui, pas quelque part.
C'est l'énigme Louise Labbé. Et justement, alors, tous ses biographes, et même la dernière en date, posent ce problème comme une énigme. Double énigme. Comment une femme a eu cette culture, puisqu'elle n'a pas accès à la scolarisation normale que les garçons avaient à Lyon, avec un très beau collège humaniste qui avait été créé dans les années 1520. Bon, évidemment, aucune femme n'entrait dans ce collège. Elle n'a rien de tout ça.
Rien.
Et en plus, encore plus compliqué, non seulement c'est une femme sans culture scolaire, académique, mais c'est une femme de cordier, c'est une fille de cordier.
Okay.
La belle cordière,
d'accord,
donc la femme belle et appartenant à cet univers des cordiers.
Okay.
Donc, elle est roturière. C'est une femme, deux raisons qui la priveraient normalement d'accès au savoir, à la culture, à la musique, à l'art. Donc le miracle, il est là. Comment cette femme a créé? Mais tu sais très bien, toi qui crée, que...
Oui, c'est compliqué, cette question-là. Voilà. Ça vient de... C'est plein de petites plantes qui mettent ensemble. À un moment donné, ça pousse.
Voilà.
Les fleurs, on ne sait pas quand ça pousse, mais...
C'est une somme de facteurs qui se sont réunis, coagulés pour faire possible, pour rendre possible l'écriture. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entre mêlés de joie. Tout à un coup, je ris et je larmoie.
Allez, ciao, bye bye. Sinon, c'est...
Alors, tu disais tout à l'heure, pour ton exposition à Périgueux, que tu es en train de monter,
ouais.
Tu as des sculptures, des totems qui renvoient à ton enfance chinoise, à cette période où tu avais...
En fait, ce n'est pas vraiment chinoise, en fait.
Ouais.
Je préfère dire que plutôt Yunnan.
Alors, voilà, culture du Yunnan. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu des choses de cette culture du Yunnan?
Cet endroit-là, c'est le... Frontière de nord, c'est frontière de, avec Tibet. Sud, c'est frontière avec Birmanie, Vietnam, Laos. Et intérieur lié avec la Chine. Du coup, c'est un endroit très montagneux. Et c'est la suite de l'Himalaya. Et le plus haut de montagne, c'est 6000, quelque chose comme ça. Le moyen latitude, c'est 2000.
Ouais.
Et là-bas, il y a beaucoup de volume. En plus, dans les yeux, c'est du volume, des montagnes, des plantes, des fleurs, des sens, des bancs, tout ce que tu vois, c'est du volume.
Donc la création, pour toi, elle est vraiment liée au milieu dans lequel tu es. Elle est l'expression du milieu.
En tout cas, la plupart de mon création, il y a une grande source, ça vient de cette enfance. Je reste là-bas jusqu'à 13 ans.
Donc ça prouve que la création est vraiment liée au lieu, liée au milieu. Ce que tu viens de dire pour toi, c'est exactement vrai pour Louise Labbé, qui a sans doute, elle, été beaucoup plus sédentaire, liée à Lyon, restée à Lyon presque, peut-être presque toute sa vie.
Mais parce qu'il y a des endroits, ça te nourrit, c'est dans ton sang. Dans ton sang, il y a quelque chose, ça coule. C'est combien, à un moment donné, je vis ici, mais après quelques mois, j'ai tellement envie de manger du piment. C'est quelque chose comme ça.
On va aller justement pour cette affaire de piment, on va aller voir... Les lieux qui étaient les lieux où a vécu Louise Labbé, qui l'ont déterminé, qui ont pimenté.
D'accord.
Et qu'on va retrouver
pimenté
dans ses poèmes.
Pimenté sans bave.
Voilà.
Ok.
Alors, si on essaie d'imaginer ce que pouvait être Lyon comme le Yunnan était pour toi quand tu étais petite, jusqu'à tes 13 ans, on a du mal à reconstituer l'atmosphère de Lyon. Mais on sait de trois éléments, et en particulier ici, Place Bellecour, où nous sommes toutes les deux. C'était un endroit pas du tout semblable à celui-ci, c'était pas une place, et c'était un pré. On appelait ça le jardin de Bellecour, hein, c'est l'étymologie de Bellecour, c'est beau jardin. C'est un pré, pas très beau d'ailleurs.
C'est joli cet nom, le jardin Bellecour.
Un jardin Bellecour, ouais. Un beau pré, avec quelques arbres déjà à l'époque, pas encore plantés, hein, des arbres sauvages. Et puis, c'est un endroit relativement peu utilisé par la ville, c'est la campagne à Lyon. Donc Louise Labbé habitait juste à côté, la rue dans laquelle elle habitait commençait là au bord de la place Bellecour et descendait vers l'Hôtel Dieu.
Du coup, elle a souvent bien joué cet endroit-là.
On peut imaginer. Ah. Alors, jouer, non, parce que là, c'est à l'âge adulte.
C'est pas jouer.
Là, c'est à l'âge adulte qu'elle habitait là. Petite, elle habitait plutôt côté terreau. Donc, la place Bellecour, voilà, c'était la campagne à Lyon. Tous ces sons qui allaient de la cloche au couinement du porc en passant par les cris des batelières, là on peut imaginer ce que vivait Louise Labbé et le bruit des sabots de chevaux sur les pavés.
Il me semble qu'elle montait sur le cheval là aussi, c'est là
oui,
elle montait sur le
elle
cheval.
Est montée, voilà, alors là c'est la légende de Louise Labbé que tu touches, très importante, parce que ce qui ne serait pas légendaire, c'est qu'elle était cavalière. Apparemment, c'était une vraie cavalière qui montait comme un homme, à cheval. Mais en revanche, sur cet élément-là, elle aurait été cavalière. C'est greffé une légende comme quoi elle aurait été soldate militaire, qu'elle aurait accompagné les armées royales.
C'est vrai ou c'est faux ?
Soldate, c'est faux.
Ah, c'est faux.
Accompagner les armées, déguisée en homme, habillée en homme, et puis passant pour un homme, allant au siège de Perpignan, ça c'est une légende qui existe dans un des poèmes de ses œuvres d'ailleurs, hein, que un des poètes qui lui a écrit un poème raconte cet épisode, mais le raconte de manière mythique, légendaire, comme il la compare à Sappho, à la grande poétesse Sappho, c'est pareil. Donc je crois que c'est pas vrai, elle n'a pas été soldate, mais certainement bonne cavalière.
En Chine, il y a une femme, elle est soldate, elle déguisait en homme, elle y allait faire le soldat. Ça existe en vrai, c'est pas en lisant, en vrai.
Ah ben, il y a dû avoir des cas de travestissement, certainement. Ouais. Mais pour Louise Labbé, c'est assez peu probable. Hein. D'abord parce que le fameux siège de Perpignan, elle était toute petite, enfin elle était encore gamine. Ouais. C'est peu probable qu'elle ait accompagné l'armée. En revanche, qu'elle ait pu jouer à Lyon lors de certaines fêtes, des fêtes royales, qu'elle ait pu jouer en costume sur un cheval, un rôle de capitaine, puisqu'on l'aurait nommé capitaine Louis, la fameuse Louise. Ça, c'est peut-être vrai, mais c'est de la représentation, tu vois, lors d'une fête, d'une mascarade. La réalité d'une Louise Labbé véritablement combattant avec les armées royales, ça, c'est sûr que non.
Donc c'est ici elle
habite ici qu'elle a vécu à l'âge adulte avec son mari. L'immeuble ici était l'immeuble où était la corderie, une des corderies de son mari, et ils ont vécu ici. Donc
c'est quelle période elle habitait ici?
Dans les années 40, 40-50.
D'accord.
Juste avant de publier, peu avant de publier ses œuvres, c'est là qu'elle avait donc à la fois une maison et derrière des jardins. Et c'est les fameux beaux jardins qui sont plusieurs fois évoquée dans l'œuvre de Louise Labbé. Elle avait des jardins avec des fleurs assez rares. C'est là qu'elle faisait sans doute de la musique, peut-être qu'elle recevait. Donc vraiment là, c'est tout est Louise Labbé ici. Et sans doute que cette rue, ce bout de rue, qui s'appelle plus comme ça aujourd'hui, était le bout de la rue Bellecordière. Louise Labbé est surnommée la Bellecordière. Sauf qu'elle habitait rue Bellecordière. Donc le mot même, Bellecordière, a préexisté à Louise Labbé.
Ouais.
Existé avant. Puisque tu donnes pas le nom de la rue à quelqu'un de vivant quand quelqu'un est encore vivant. Donc là, la rue Bellecordière, c'est la preuve qu'il y avait une légende de la Bellecordière à Lyon.
Ah, il y a une
avant
légende.
Louise Labbé.
Ouais.
Et comme Louise Labbé était belle, était femme de cordier,
tout
fille
ça.
De cordière, elle a repris ce surnom de Bellecordière. Mais du coup, c'est là que commence une des légendes problématiques, c'est que la Bellecordière était associée dans des chansons à une femme de mauvaise vie, une prostituée, une courtisane. Mais c'est la légende associée à ce nom qui n'était pas que le nom de Louise Labbé. C'était le nom d'un mythe lyonnais, la Bellecordière. Voilà.
Ouais. Voilà. Un mystère encore.
Un mystère encore. Voilà. Donc, a priori, elle aurait pris ce nom après coup. Ô long désir, ô espérance vaine, tristes soupirs et larmes coutumières, a engendré de moi maintes rivières, dont mes deux yeux sont sources et fontaines. Ô cruauté, ô duretés inhumaines, piteux regard des célestes lumières, du cœur transi, ô passion première, estimez-vous croître encore mes peines? Qu'encore amour sur moi son arc essaie, que nouveau feu me jette et nouveau dard qui se dépite et pique il pourra face, car je suis tant navrée en toutes parts que plus en moi une nouvelle plaie, pour m'empirer, ne pourrait trouver place. Donc, on parlait des ateliers d'imprimerie qui étaient tout autour de cet immeuble où vivait Louise Labbé, en particulier celui de Jean de Tournes, donc qui est à côté d'ici. Ces ateliers, c'était des lieux où à la fois il y avait des humanistes, des intellectuels, qui choisissaient des textes, qui lisaient des textes, qui corrigeaient les textes, comme Rabelais par exemple, hein, les grands intellectuels de la Renaissance vivaient dans les ateliers d'imprimeurs pendant des périodes. Et c'est un lieu, c'était ça le plus singulier, qui n'était pas fermé aux femmes. Comme c'est un lieu neuf, parce que les imprimeurs, ils sont apparus à Lyon.
Ouvert à tous.
Ouvert à tous, non, mais il y a des femmes dans les ateliers, et il y a même des femmes qui vont devenir des patronnes d'imprimerie, puisque quand l'imprimeur meurt, les femmes d'imprimeurs avaient le droit de reprendre la succession.
Elle a inspiré dans cet endroit-là, c'est sûr. Ouais. Elle, souvent, il y a les facultés dans l'atelier.
Vraisemblablement, c'est là qu'elle s'est cultivée beaucoup. Voilà. Donc toute sa culture de poète, sa culture de même d'humaniste, c'est une humaniste. La femme elle-même est une humaniste, c'est-à-dire qu'elle a une culture antique. Cette culture, elle l'a par l'oreille. Voilà, et c'est ça qui a fait la culture de Louise Labbé. On était resté à tes 13 ans dans le Yunnan.
Ah oui, c'est
à ta, vie dans la nature, les sauterelles, les grenouilles, etc. dans le Yunnan. Est-ce que tu peux me dire maintenant comment ça a évolué, ta formation ensuite?
Du coup, j'ai passé 3 ans dans la ville pour le lycée.
Oui.
Au collège.
Ouais.
Là, c'est complète coupe mon monde. Et je connais personne, il n'y a pas de chien là, il n'y a pas de larbre là, c'est des villes là. Ensuite, j'ai fait mon test dans le lycée, dans l'art. C'est ce moment-là que j'ai rencontré mon maître dans l'art, ça s'appelle Jiang Daqian. Et c'est chez lui, j'ai vu tous les livres sur l'art, sur...
Alors qu'est-ce qu'il faisait lui comme c'était quoi? C'était un peintre?
Lui c'est un peintre, peinture chinoise traditionnelle. Est-ce que lui
est-ce qu'elle a eu un maître?
Parce que moi c'est cette maître là qui me donne l'ouverture vers l'art. Est-ce que Louise Labbé elle a quelqu'un qui est ouvert?
Alors c'est difficile à dire, mais sans doute pas, parce qu'un maître au sens strict, on a évoqué l'idée que Maurice Sève par exemple, le poète Maurice Sève avait été un maître pour Louise Labbé, mais c'est sans doute faux. Parce que les liens sont très peu établis entre eux. Ils se connaissaient, bien sûr, ils se fréquentaient. Maurice Sève a écrit un sonnet pour Louise Labbé, mais c'est tout. Donc, ce n'est pas un maître pour elle. Je pense que cette culture, encore une fois, elle n'est pas liée à une relation de maître à disciple, mais vraiment au contraire d'une immersion dans les ateliers, dans l'environnement culturel lyonnais, italien, italophile. Bon, dans ce milieu-là, oui, elle a été formée. Mais pas par un maître, je ne crois pas. On n'est pas dans cette optique plus parisienne peut-être, hein, où il y a vraiment des grandes têtes des chefs de file, comme Ronsard ou comme Dubellay. À Lyon, il n'y a pas de chef de file. Et Maurice Sève a refusé tout le temps de l'être.
Ouais.
Alors, une des certitudes sur l'éducation de Louise Labbé, c'est son éducation musicale, puisqu'elle était à la fois musicienne, elle jouait du luth, et chanteuse.
Ouais.
Et un des sonnets dans les œuvres évoque le luth comme un être humain, personnifié comme un être humain. Luth, compagnon de ma calamité, de mes soupirs témoins irréprochables, de mes ennuis contrôleurs véritables, tu as souvent avec moi lamenté. Et tant le pleur piteux t'a molesté, que commençant quelques sons délectables, tu le rendais tout soudain lamentable, feignant le ton que plein avait chanté. dans ce début de sonnet, il y a un vocabulaire très précis musical où elle explique, derrière la douleur que le luth transcrit, la douleur amoureuse, elle transcrit aussi l'opposition entre le majeur et le mineur, le mode majeur, le mode mineur en musique. Et c'est ce qu'elle appelle rendre un son lamentable, feignant le ton que plein avait chanté. C'est le passage simplement du majeur au mineur. Donc on sent qu'il y a une technique. C'est une musicienne qui a une technique musicale et elle joue du luth. Bon, ça encore une fois, comme les femmes le faisaient très souvent à la Renaissance. C'est là où on voit toutes les compétences et même le génie de Louise Abbé. C'est que non seulement elle est musicienne, mais elle est capable de parler de la musique. Donnant faveur à ma tant triste plainte, en mes ennuis me plaire suis contrainte, et d'un doux mal douce fin espérée. Donc dans ces trois derniers vers du luth, où elle s'adresse encore au luth, elle revient à la fois sur la mélancolie, la tristesse, la triste plainte, et le caractère peut-être mineur, du mode mineur qu'elle va adopter, et en même temps elle termine sur ce mélange, et d'un doux mal douce fin espérée. Et là c'est la promesse d'une douceur érotique. C'est le toucher, là, cette fois-ci, en termes de sens, qui apparaît.
Ça donne l'autre dimension dans le...
Voilà, douce fin, évidemment, c'est le bonheur d'amour qu'elle évoque à la fin du... Le toucher du luth devenant le toucher du corps.
Baise-moi encore, rebaise-moi, et baise, donne-moi de tes plus savoureux, donne-moi de tes plus amoureux, je t'en rendrai quatre plus chaud que braise.
Elle venait, c'était pas sa paroisse, puisqu'elle était vers Notre-Dame de Confort, elle habitait où on était tout à l'heure, mais elle venait nécessairement à la cathédrale. Pour les grandes occasions, les Lyonnais venaient, comme aujourd'hui, à la cathédrale Saint-Jean. Alors, la cathédrale Saint-Jean, c'est un lieu de fête, mais c'est aussi un lieu de supplice. Et c'est ça que je voulais évoquer avec Marot, Clément Marot, le poète, qui est un poète légèrement plus vieux que Louise Labbé, qui lui a été obligé sur le parvis de la cathédrale ici.
Mais elle connaît Louise Labbé ou non ?
Oui. Apparemment, ils se connaissent.
C'est des amis.
Non, je pense pas. Mais ils se sont fréquentés parce que Marot est passé. Marot n'habitait pas à Lyon, mais il est passé à Lyon à plusieurs reprises avec la cour. Et l'épisode le plus douloureux pour Marot, c'est celui où il a été contraint de renoncer à la réforme protestante, ici, sur le parvis de la cathédrale, en chemise, recevoir le fouet, dire pénitence, demander pardon pour pouvoir rentrer en France. Parce qu'il était exilé en Italie pour échapper aux poursuites pour hérésie. Et quand il est revenu, donc, il est là, à genoux, devant la cathédrale, en 1536-37. Fin 1536-1537, Louise Labbé a une douzaine d'années. Elle a peut-être aussi assisté à cette scène, qui est une scène assez dure, vraiment dure, où le cardinal de Tournon exige de Marot donc, cette séance d'humiliation publique.
Est-ce que c'est à cause de tout ça, ce qu'elle veut, elle voit, ça lui donne cette... cette passionnée dans son poème,
peut-être que ça,
chanière.
Peut-être que ça lui donne une forme de passion, mais surtout, ça la tient à l'écart de tout discours religieux. Dans son œuvre, il n'y a pas une seule allusion, ni au christianisme, enfin catholique, ni au christianisme calviniste, ni à Dieu, ni à quoi que ce soit. Mais son œuvre n'est pas du tout religieuse.
Parce que tout ce subtil, sensible, ça ne vient pas comme ça.
À Lyon, il y a eu la Saint-Barthélemy.
Oui, après il y a la guerre entre les deux, etc. Mais en même temps, c'est époque là, il y a le humanisme, non ?
Oui.
Il y a le humanisme, mais en même temps, à côté, il y a le
fanatisme.
Oui.
Oui, il y a tout en même temps.
Ouais, tout le même temps.
Il ne faut pas idéaliser du tout. C'est pour ça que je te parle de ça, parce qu'il ne faut pas idéaliser la Renaissance en pensant que c'est une période fastueuse, une période culturelle, une période de raffinement. C'est une période de supplice, c'est une période d'horreur, de sang, de barbarie,
en même temps
que le raffinement, que la dame à la licorne, que la poésie amoureuse.
Ça veut dire que c'est vraiment le moment de la mort et Renaissance.
Oui.
La mort, là. Oui. Net.
Et la passion érotique est d'autant plus forte que la mort est là tout le temps. La mort rôde tout le temps. Tout aussitôt que je commence à prendre dans le molli le repos désiré, mon triste esprit hors de moi retiré s'en va vers toi, incontinent se rendre. L'or m'est avis que dedans mon sein tendre je tiens le bien où j'ai tant aspiré et pour lequel j'ai si haut soupiré que le sanglot est souvent cuit défendre. Ô doux sommeil, ô nuit à moi heureuse, plaisant repos plein de tranquillité. Continuez toutes les nuits mon songe, et si jamais ma pauvre âme amoureuse ne doit avoir de bien en vérité, faites au moins qu'elle en ait dans mon songe.
Après le lycée, en fait, lui, il a tellement me veillanté vers l'art, vraiment, mais l'art, c'est
l'art.
L'art
classique,
ouais, ouais. Ouais. Du coup, j'ai passé le concours pour entrer dans le Beaux-Arts. C'est tellement dur, le concours.
Mais je l'ai réussi.
Ouais. Après, pendant ces 4 ans-là, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup bougé. C'est ces 4 ans-là que je vraiment bien me mettre dans l'art.
Et il t'orientait vers l'art traditionnel ou tu étais déjà sur autre chose?
L'art traditionnel. Et quand j'ai entré dans le Beaux-Arts, c'est entré dans le Beaux-Arts vraiment l'art traditionnel, la peinture chinoise. D'accord. Le tampon, le calligraphe et tu vois, copier les vieilles peintures. Et après, il y a une école à Hangzhou, c'est l'institution vraiment peinture chinoise, mais elle est plus top de Chine. Normalement, c'est très dur à entrer dans cette école-là. Et après, je commence à chercher du travail, bien sûr, après l'école, il faut tout du travail. Et je trouve un boulot pas loin de Hangzhou. L'autre endroit, ça s'appelle Suzhou. Et du coup, j'ai bougé là-bas un an. Je reste un an après. Pourquoi j'ai bougé de Europe? Parce que j'avoue que ça, c'est pas ma vie, ça va être pas comme ça. Parce que pendant un an, c'est une école super, une école internationale. Ouais, ouais. Je suis professeur à plastique. C'est très bien payé. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ton papier, le vieillesse, le bancaire, tout ce qu'il faut. Et, mais du coup, j'ai décidé de quitter le boulot et rendre l'appart. J'ai envie de dire contemporain, j'ai envie de partir loin, voyager vers le contemporain. C'est pour tout ça, après.
Que tu es venue en France.
Je quitte la Chine. Voilà. Moi, j'aime bien les étrangers. J'aime ça.
C'est le point de contact avec Louise Abbé, qui nécessairement est allée au contact à Lyon des populations étrangères. Ouais. Au moins les Italiens, mais c'est sûr. Ouais. C'est justement exactement ça, c'est l'architecture de la Renaissance. Cette chose magnifique là qui est sur le bord de l'escalier.
Mais c'est symbole, il y a des symboles aussi, non?
Alors des symboles, je pense pas. Je pense pas que c'est très dépouillé ici l'architecture, hein, la pierre est très dépouillée, mais c'est vraiment le raffinement, tu vois, de l'escalier à vis, il existait déjà évidemment au Moyen Âge.
Ouais, à cette époque-là.
Mais là, avec ce bord-là, ça c'est vraiment le raffinement. De l'esthétique renaissante italienne.
C'est une plante qui poussait.
Voilà. Ouais, le côté, oui, c'est ça, c'est le côté presque végétal de l'escalier.
Pousser une larve de vigne.
Mais tu vois, on a des éléments comme cette cheminée-là, ouais. Là encore, hein, qui est typiquement fin gothique, début renaissance. Donc là, c'est l'idée qu'on est dans une salle d'apparat. Alors, je ne sais pas si Louise Labbé était venue dans cet hôtel, donc qui était l'hôtel des pierres vives au début, qui est devenu l'hôtel Gadagne.
Par contre, elle fait compter souvent ici.
On ne sait pas. On n'a aucune idée de ça. Aucune idée, mais c'est possible hein, qu'elle ait fréquenté ces lieux. Mais c'était des lieux de l'aristocratie la lyonnaise qui n'étaient pas son milieu à elle. Mais c'est possible qu'elle soit venue dans ces lieux. Donc l'hôtel Gadagne, donc c'est vraiment un des lieux de prestige de Lyon au XVIe siècle. Hein, c'est là où il y a des fêtes, effectivement, où il y a l'apparat. C'est ce qu'on voit avec cette cheminée, ce qu'on voit avec cet escalier. L'apparat, c'est les grandes fêtes solennelles où il y a le roi, la cour. Tu sais, la cour de France vient beaucoup à Lyon. à la. C'est pas, et la para, voilà, c'est ça, c'est quand il y a des fêtes.
Et danser, chanter, rencontrer des personnes, le bon costume, l'antique.
Et là, on est sûr que dans l'hôtel Galagne, il se déroulait tout ça. Des concerts, des bals somptueux, des fêtes, des banquets somptueux. Là, on a des récits, effectivement, assez impressionnants, du luxe. Tu vois, ce qui est très émouvant dans cette salle,
ben justement, c'est ça. Il y a un tout, c'est très symbolique, non? Il y a un doux serpent, une pointe à droite, une pointe à la gauche. Voilà. Qu'est-ce que ça symbolique?
Voilà. Les deux serpents, alors tu les retrouves, tu les as ici, aux deux vipères, et tu les retrouves ici. Là, c'est une serpente qui accouche de petits serpenteaux.
D'accord.
Donc ça, là, c'est vraiment les
croisements.
C'est le signe, enfin c'est vraiment l'emblème qu'avait choisi l'imprimeur. Et c'est émouvant parce que c'est l'imprimeur de Louise Labbé. C'est celui qui a pris le risque d'imprimer les œuvres de Louise Labbé en 1555. Et là, on a vraiment sa marque. Louise Labbé l'a vue chaque fois qu'elle s'est rendue chez son imprimeur. Et elle s'est nécessairement rendue à plusieurs reprises dans sa librairie, son imprimerie. Et elle a vu ça, rue Raisin, donc la rue de Jean de Tourne aujourd'hui. Elle a vu ça. Donc voilà, ça, on est en train de voir quelque chose qu'elle a vu, on est sûr. Ces pages de titres, qui sont toutes des pages de titres de cette époque-là, lyonnaise, tu vois le côté extrêmement orné. Si tu regardes les petits détails, là c'est vraiment troublant.
Je vois, il y a des, un peu dans la, presque comme mythologie, l'homme de tête, le corps de poisson, escargots.
Oui, c'est la mythologie, c'est la religion, ça dépend des décors. Hein. Tu as tantôt la Vierge,
l'homme, le cheval, les oiseaux, la mythologie grecque. Il y a des infolus par rapport
ouais. Et puis des ce qu'on appelle les grotesques, tu sais, c'est-à-dire des personnages monstrueux, hybrides, où tu es moitié homme, moitié animal.
Ouais.
Donc là, tu en as plein, des grotesques, toi avec ces visages, là, ces corps.
Il y a des poissons, des queues de poissons,
des aigles.
Des anges.
Enfin, il est vraiment très beau. Ça, c'est Jean de Tourne. Hein. Ça, c'est le raffinement dont est capable Jean de Tourne au moment de Louise Labbé, au milieu du XVIe siècle.
Okay.
À Lyon, par Jean de Tourne, imprimeur du roi, 1576, avec privilège du roi.
Ah, ça, c'est avec ça le privilège.
Voilà, ouais. Fameux privilège, tu sais, comme Louise Labbé en a eu un, hein, cette fameuse autorisation ce monopole qu'obtenait de la part du roi un imprimeur ou un auteur.
Privilège de roi, qu'est-ce que ça veut dire, moi
Alors, privilège, ça veut dire une loi privée. C'est ça, un privilège, une loi privée, c'est-à-dire une loi que pour toi.
Une loi que pour toi.
Voilà. Alors, toi, c'est l'auteur, Louise Labbé, elle a eu un privilège pour elle, à son nom.
La loi donne
une autorisation.
Autorisation privée que pour Louise Labbé.
Voilà. Là, c'est pour l'imprimeur. Jean de Tourne, hein, c'est lui qui a le privilège. Et pour Louise Labbé, c'est elle, Dame Louise Labbé, qui obtient du roi le privilège de publier ses œuvres. Le roi, si le roi lui donne un privilège, tout de suite, elle a le droit d'exister en tant qu'auteur. Donc ce privilège royal, elle l'obtient du roi Henri II, le fils de François Ier. Et elle l'obtient, directement pour elle, en tant qu'auteur, elle est reconnue par le roi. Et cette idée-là, ce fait historique, rend très peu probable l'idée d'une supercherie. Parce qu'on a dit, je ne sais pas si tu sais, tu as déjà entendu, hein, que Louise Labbé n'aurait pas écrit ses œuvres.
Oui, c'est des
hommes. Voilà, ce serait des hommes qui l'auraient écrit.
Provoquer cette personnage-là, c'est une conte.
Et bien cette thèse-là, elle est mal. Elle est empêchée par le privilège. Le fait que le roi ait donné un privilège à Louise Labbé rend impossible l'idée que Louise Labbé n'était pas un auteur.
Après, ça donne un mouvement pour les femmes. Est-ce que
quelques femmes vont obtenir des privilèges à la Renaissance et quelques femmes vont être publiées, mais ça reste une minorité, vraiment une grande, grande minorité dans l'univers des lettres. Même si les rois soutiennent, successivement, les rois vont donner un privilège ou deux à une femme au XVIe siècle. Donc Marguerite de Navarre, Louise Labbé,
Marguerite, c'est un peu
avant. Donc voilà, il y a un soutien royal à une politique plus féministe, mais ça reste vraiment très mineur.
fermeture des portes.
C'est des vues et des plans de Lyon. Ça, c'est des dessins. Des dessins à la plume. Ouais. Les murailles, tu vois. Lyon était une ville fermée, bien sûr, comme toutes les villes. Ça, c'est important parce que Lyon était à l'intérieur des murailles et tout ce qui était de l'autre côté du Rhône n'existait pas. C'était pas Lyon, quoi.
C'était des campagnes.
Voilà, la campagne. De l'autre côté du Rhône, normalement, c'est la frontière au-delà de la France. Donc c'est la Savoie, hein, qui n'a appartenu que pendant une courte période à la France. Donc passer le Rhône, c'est sortir du royaume de France pendant toute une partie du XVIe siècle. Et donc on a vraiment l'idée que c'est hors de la ville, hors du royaume. Donc on y met les étrangers, toujours aujourd'hui. Hein, on met les étrangers, on met les malades, parfois aussi hors des murailles, dehors.
Passe. Tous les étrangers, toutes les autres personnes, allez, dors, adore de le...
Les étrangers pauvres, c'est toujours pareil. Les étrangers riches, tu vois, c'est les Gadagnes, ils sont là, hein, ils sont au centre de Lyon, au bord de la Saône. Les Gadagnes, ils sont là, hein, dans l'hôtel dans lequel on est. Mais les étrangers pauvres qui arrivent à Lyon, on les met dans ce quartier de la Guillotière, qui a toujours été à Lyon. Alors, c'était pas Lyon, hein, la Guillotière, c'était à part. Et ça a toujours été un quartier de relégation.
Et en tout cas, je commence à dessiner un peu l'image d'elle. Elle a naissance dans l'intérieur de Lyon. Oui. Elle vit dans l'intérieur de Miraille. Oui. Elle maille ici. Elle fait son œuvre intérieur de cette Miraille.
Elle a vraiment quitté Lyon qu'au moment des guerres de religion, à la fin de sa vie, où elle est partie dans la Dombe, à Parcieux, dans un petit domaine qu'elle avait à Parcieux. Mais sinon, elle a vécu à Lyon. C'est vraiment une femme urbaine. Ouais. Alors là, c'est symbolique. Là, tu parlais symbolique. De symbole tout à l'heure. Toute la symbolique de Lyon, c'est l'union symbolique sexuelle de la Saône et du Rhône. Donc la Saône féminine, le Rhône masculin, qui vont s'unir, se mélanger, s'unir au confluent et descendre.
Du coup, la Saône, c'est l'homme.
C'est la femme.
La Saône, c'est femme. Ouais. Le Rhône, c'est l'homme. Ouais. Du coup, c'est deux personnes qui vont ensemble.
Ouais. Et ça, tous les poètes, alors pas Louise Labbé, pas tellement Louise Labbé, mais Maurice Sèvres, ont utilisé cette symbolique hein, de l'union physique des deux fleuves. La ville de Lyon, c'est la ville de l'amour.
D'accord, ok.
Cette symbolique liée au lieu, tu l'as dans ce poème-là, où... La naissance de Louise Labbé est évoquée par ce poète dans les œuvres de Louise Labbé. Hein, c'est un poème.
C'est pas elle qui écrit.
C'est pas elle qui écrit.
Voilà. Pour elle.
On écrit pour elle. En moi, tu fus engendré. Donc en moi, Lyon. Tu, toi, Louise Labbé, tu fus engendré, joignant le gracieux bord où la Saône toute quoi fait une paisible voie s'en allant fendre Lyon, dans laquelle on voit encore un mont où l'on me décore qui retient de moi son nom. Oui, à cet endroit-là, c'est Vénus qui parle dans le poème. Vénus décrit Lyon comme sa propre ville. Donc voilà, on est dans la symbolique de l'amour, une symbolique où la Saône est déjà bien marquée des traits du féminin, de la douceur, etc. Elle est plus petite que le Rhône. Le Rhône est plus large, donc évidemment
c'est
le masculin. La Saône est plus sinueuse, plus petite. C'est elle qu'on considère que c'est elle qui se jette dans le Rhône et non pas l'inverse. De cet assemblage du Rhône et de la Saône, hein, qui est vraiment la symbolique lyonnaise. Plutôt seront Rhône et Saône disjoints que d'avec toi mon cœur se désassemble. Plutôt seront l'un et l'autre mont joints qu'avec nous aucun discord s'assemble. Plutôt verrons et toi et moi ensemble le Rhône aller contre mont lentement, Saône monter très violentement. Que ce mien feu t'en soit peu diminué. Là, tu vois un buste, celui de Clémence de Bourges. C'est la femme à qui Louise Labbé dédicace ses œuvres. C'est elle qui, en quelque sorte, légitime, protège l'arrivée de Louise Labbé, qui n'est qu'une femme, qu'une roturière, qu'une femme de cordier, sur la scène littéraire. C'est un des points de contact certains entre une roturière cordière, femme de cordier, et l'aristocratie lyonnaise. C'est Clémence de Bourges, puisque Clémence de Bourges connaissait les œuvres, puisque Louise Labbé lui offre ses œuvres. Donc là, il y a un lien de femme à femme. On ne sait pas quels étaient leurs liens, sinon par cette dédicace. Hein, et ce traité féministe, la lettre, c'est une sorte de traité féministe hein, qu'écrit Louise Labbé à Clémence de Bourges pour réclamer le droit à la création pour les femmes. Donc le fait que les femmes doivent quitter leur quenouille, arrêter de faire des travaux de femmes pour faire des travaux de créatrice, pour créer. C'est vraiment ça qui est impressionnant chez Louise Labbé, c'est que en 1555, elle est capable de construire une revendication d'abord,
ouais.
Revendiquer l'accès à la création, pas seulement à l'éducation, à la création pour les femmes.
Ouais, bien sûr, ouais.
C'est au-delà hein, que simplement savoir aller à l'école, c'est vraiment le droit de créer. Et puis, tout de suite après, dans l'épître à Clémence de Bourges, elle fait une théorie de la création.
Ouais.
Ah, c'est une théorie de la création, pas seulement l'accès des femmes à la création. Je ne puis faire autre chose que prier les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et fuseaux, s'employer à faire entendre au monde que si nous ne sommes faites pour commander, si ne devons-nous être dédaignés pour compagne, tant est-ce affaire domestique que publique. Donc voilà, hein, ça c'est la revendication, à lâcher l'univers domestique, prier les dames de lâcher les quenouilles et fuseaux, de lâcher vraiment les symboles de l'activité féminine. Et à la fin de l'épître, en revanche, là elle quitte le féminisme, ouais. Le proto-féminisme, hein, le début du féminisme, pour parler aussi bien aux hommes et aux femmes et dire... À quoi sert la création ? Et c'est là où elle est prodigieuse, hein, parce qu'elle a réfléchi, toi tu vas me dire ce que t'en penses,
ouais.
À quoi sert le fait même de créer ? Et elle dit ceci, « Le passé nous réjouit et nous sert plus que le présent, mais les plaisirs des sentiments se perdent incontinent et ne reviennent jamais, et en est quelquefois la mémoire autant fâcheuse comme les actes ont été délectables. Davantage les autres voluptés sont telles que quelques souvenirs qui en viennent, si ne nous peut-il remettre en telle disposition que nous étions ? » Donc, le passé, c'est souvent du plaisir, et c'est un plaisir perdu, dit-elle. On ne peut plus le retrouver, on ne peut plus le sentir. Et
c'est,
créer...
C'est seulement la création, ça, te, voilà. Ça t'attrape cet sentiment qui disparaît, qui, parce que le temps est liquide, tu ne peux pas attraper. Du coup, c'est la création qui te donne une petite matière qui garde cette mémoire.
Voilà. Et une mémoire de la sensation et du sentiment. Bien vraiment sûr. La mémoire affective. Et là, sa théorie de la création, c'est ce que tu dis, c'est élargir l'expérience de vie en retrouvant ce qui nous a échappé, ce qui est perdu. Donc cet épître, surtout l'épître, hein, qui est donc en tête des œuvres, ça calme sur l'idée que les œuvres de Louise Labbé, c'est la poésie sensuelle, la poésie voluptueuse, la poésie sensible, la poésie de femme. Tu vois, c'est pas du tout ça. Elle est bien plus haut que ça. Elle est une poésie de l'être humain. Elle est dans la recherche de ce que c'est qu'un être humain sur Terre. Pourquoi il est là ? Pour faire autre chose que des actes domestiques, des actes quotidiens, pour faire, pour créer, et en créant, élargir cette expérience de vie. Tableau qui représente de manière assez fictive, dans un décor en partie fictif, à moitié lyonnais réaliste, à moitié fictif, les guerres de religion et particulièrement le moment où Lyon est passé aux mains des protestants. Et ça correspond à la fin de la vie de Louise Labbé. 62-63, quand Lyon passe aux mains des réformés, Louise Labbé a déjà quitté Lyon. Elle est déjà veuve, elle a déjà publié ses œuvres, elle n'écrit plus, ou en tout cas on ne sait rien. Non, on ne sait rien de ce qu'elle a écrit après. Elle habite loin de Lyon, dans la Dombe, dans une de ses maisons. Et donc, elle n'a pas vécu directement ce moment-là, ces troubles-là.
Ouais.
Voilà. C'est la fin de sa vie. Elle a déjà une quarantaine d'années, 40, 45 ans. Ces dernières années, elle les vit à la campagne. Et là, on peut lire peut-être un des textes où elle évoque cette possible vieillesse, à un moment où elle n'est pas encore vieille, puisqu'elle publie les œuvres en 55, bon, 10 ans plus tôt. Voilà ce qu'elle dit. Tant que mes yeux pourront larmes épandre, à l'heure passée avec toi regrettée, et qu'aux sanglots et soupirs résister pourra ma voix et un peu faire entendre, tant que ma main pourra les cordes tendres du mignard lutte pour tes grâces chanter, tant que l'esprit se voudra contenter de ne vouloir rien fort que toi comprendre, je ne souhaite encore point mourir. Mais quand mes yeux je sentirais à rire, ma voix cassée et ma main impuissante, et mon esprit en ce mortel séjour ne pouvant plus montrer signe d'amante, prierai la mort noircir mon plus clair jour. Donc ça, c'est le poème où elle évoque...
Sombre.
Voilà. Ben non, en fait, c'est, voilà, ça paraît très sombre parce qu'elle évoque sa vieillesse, une impuissance, l'impuissance des yeux, des mains, de la voix, de la main qui tend les cordes du luth. Et en fait, c'est un poème pas du tout sombre, hein, puisqu'elle dit que tant qu'elle peut montrer signe d'amante, l'amour, c'est montrer des signes. Déjà, c'est ça. La première idée, c'est ça. Hein. Les signes de la voix, du chant, de la musique, de la pensée... Tant que son esprit est suffisamment clair, son corps fort...
Au-delà de voilà. Le corps physique, oui.
Voilà. Donc c'est une image de la vieillesse féminine, qu'on ne lit jamais dans la poésie. Dans la poésie, la vieillesse féminine, c'est une femme devenue laide et pas désirable. Et elle, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'elle dit. Être vieux, c'est ne plus pouvoir faire les gestes de l'amour, les signes de l'amour. Chanter, penser, jouer. Et donc c'est ça la vieillesse féminine envisagée comme ça, c'est-à-dire une vieillesse qui ne permet plus d'être une créatrice, tout simplement. Tant que je peux créer, je peux dire l'amour, je veux vivre. Le jour où je ne peux plus créer, je préfère mourir. C'est un poème où elle écrit face à elle-même, dans une exigence de soi-même à soi-même. Et l'autre, l'amant, n'est pas là. C'est moi, ce que je peux faire et ce que je ne pourrais plus faire. Et cette idée de la vieillesse féminine qui n'a rien à voir avec ce qu'écrit Ronsard, ce qu'écrivent d'autres poètes, qu'une femme vieille est vraiment moche, non désirable.
C'est une femme à face d'elle.
C'est vraiment pas ça, quoi. Et donc ça, ça me paraît pas possible qu'un homme ait écrit ça. Cette image même de la vieillesse féminine, très singulière.
C'est seulement le corps qui vieillit et ton âme est la même beauté.
Ô beaux yeux bruns, ô regard détourné, ô chaud soupir, aux larmes épandues, ô noire nuit vainement attendue, ô jour luisant vainement retourné, ô triste plein, ô désirs obstinés, ô temps perdu, ô peine dépendue, ô mille morts en mille raids tendus, ô pire mot contre moi destiné, ô riz, ô front, cheveux, bras, mains et doigts, ô luth plaintif, viol, archet et voix. Tant de flambeaux pour ardre une femelle. De toi me plains, que tant de feux portant en tant d'endroits disseux mon cœur t'attend, n'en ait sur toi volé quelque étincelle.
Waouh, c'est ni mineur. Hein.
Donc là, t'as un vitrail effectivement plein de couleurs. Alors c'est un vitrail du tout début XXe siècle qui représente de manière encore assez fictive hein, Louise Labbé.
Un arbre de pomme, non?
Oui, avec un pommier.
Un pomme, d'ailleurs, ouais. Ah, c'est des nuages, le oiseau,
la colombe, les fleurs.
Louise Lionel,
c'est la façon dont elle signe. Tu sais, sur ses œuvres, c'est
elle
écrit
signe comme ça.
Louise Labbé Lyonnaise. Il faut lire dans ce sens-là, ouais. Hein, Louise Labbé Lyonnaise. Elle signe comme ça. D'ailleurs, je t'ai pas dit, c'est une signature très singulière, parce que les femmes ne signent jamais comme ça à la Renaissance, simplement prénom et nom. Ah. Elle signe en mettant dame, madame, très noble,
Sans son nom pop.
Si, avec le nom, mais entouré par des marques de civilité, par des marques de politesse, par des marques de noblesse. En fait, elle signe comme un homme. Louise Labbé. Ça, c'est très, très singulier. Aucune femme ne signe comme ça. J'ai fait le relevé, là, de toutes les signatures des femmes de la Renaissance. Aucune femme ne signe comme ça. Donc là encore, c'est cette preuve qu'elle a voulu entrer dans la littérature comme un homme. Avec les mêmes armes et le même nom.
J'ai envie de s'exister à ma façon, ma manière.
Ouais. Je suis sûre qu'elle est de ce point de vue universaliste, pas féministe au sens des différences entre les hommes et les femmes, hein, mais les femmes ont accès, devraient avoir accès aux mêmes choses que les hommes parce qu'elles sont des êtres humains au même titre. C'est vraiment cette idée-là. Et elle le marque dans sa signature, elle le marque dans le titre de ses œuvres, elle le marque dans son épître, sa revendication, sa théorie de la création. Tout le temps, elle le dit, les femmes sont des hommes comme les autres. C'est vraiment une position qui fait qu'on ne peut pas imaginer, là encore, une supercherie. Parce que ce n'est pas du tout un discours d'homme, hein, de dire que les femmes sont des hommes comme les autres. C'est un discours de femme. C'est un discours de femme qui veut, qui prétend à cette égalité. C'est le début du discours de l'égalité, en fait. Louise Labbé, elle a été... Alors, peu connue et peu lue au XVIIe siècle, le siècle d'après, et en revanche, on la redécouvre au XVIIIe, on la publie sans cesse au XIXe, on la publie sans cesse au XXe siècle, aujourd'hui évidemment aussi. Donc c'est vraiment la réception de l'œuvre et l'intérêt pour la femme, il a été tout le temps Donc à part cette éclipse du XVIIe siècle,
elle a vraiment traversé tout ce siècle-là, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, XXIe siècle. Ouais. Elle s'existe encore, ouais. Elle
traduite en langue étrangère, ouais. Traduite en espagnol, en anglais, en allemand. Il y a vraiment un intérêt, et pas un intérêt récent seulement, pas un intérêt des féministes américaines ou canadiennes.
Mais du coup, c'est elle traverse le siècle, la sensation sur l'humain, ça traverse le siècle. C'est comme le poème on y lit hier, je dis que oh, c'était contemporain, même aujourd'hui on lit, c'est la même sensation, du coup, en tant qu'humain.
Oui, la langue de Louise Labbé, c'est une langue qui a vieilli, qui est difficile pour nous aujourd'hui, mais passer cet obstacle de la langue, de l'historicité de la langue, ce qu'elle dit dans l'épître, dans le débat, dans les élégies, dans les sonnets, c'est parfaitement audible aujourd'hui. Parfaitement. Et ça n'a pas vieilli du tout. C'est ça qui fait qu'elle provoque un tel intérêt ça aussi aujourd'hui. Ouais.
Baisse-moi et baisse, donne-moi de tes plus savoureux, donne-moi de tes plus amoureux, je t'en rendrai quatre, plus chaud que braise. Toujours suis mal vivant discrètement. Et ne me puis donner contentement. Si hors de moi ne fait quelque saillie.
Alors, Chouin, on est dans ton atelier. Est-ce que tu peux me dire ce qui est au mur? L'inspiration, elle devient d'où?
Beaucoup de choses. De ma vie, de ce que j'entends, ce que dans cinq sensations, ce que je touche, ce que je vois, ce que je regarde. Mais aussi, il y a une grande partie de mon création, c'est beaucoup lié à mon enfance. Et vu que quand j'étais petit, j'ai passé beaucoup de temps douceur dans le champ, jouer, observer le zèbre de libellule, ouvert le poisson. Lotus, je l'ai ouvert, je l'ai touché, je l'ai regardé, j'ai passé beaucoup de temps à douceur, à observer tout ça. Vu que je suis dans la famille nombreuse, ma mère, elle n'est pas assez de temps occupée de moi. Du coup, je douceur, je jouais dans le champ.
Donc, c'est cette liberté en Chine, dans ta petite enfance, qui est le moment où tu t'es imprégnée de la nature, des animaux, des plantes, qui nourrit ton imagination aujourd'hui.
Tout au début, je ne tiens pas compte de ça, mais le moment quand je suis reviens en Europe, je vraiment tiens compte de ça. Ça, c'est vraiment la source de mon inspiration. Et c'est à partir de là que je crée mon œuvre, parce que... Mais cette pièce-là...
Voilà, par exemple.
Mais je disais que le poisson, c'est un aliment très... C'est... Tous les êtres vivants, il y a le même corps, il y a longtemps avant. Tous les êtres vivants, c'est le même corps. Et du coup, je dis que le poisson, ça, c'est notre ancêtre. Tout petit plante qui pousse, le poisson. Mais bien sûr, c'est pas juste une poisson tout petit. J'invite que c'est un poisson, il y a des ailes, il y a des jambes qui bougent, qui marchent. Comme dans le... Genre, c'est inspiré beaucoup dans la mythologie, c'est avec sa force, c'est tout ce symbole en lui qui amène à l'autre dimension de être. Et aussi bien sûr Miro, Picasso, il y a sinon plus contemporain Niki Sanfal, Fita Kahlo. Tu vois, elle, tu peux pas lui mettre dans époque, c'est elle. Quelque part, moi aussi, je suis pas là pour bouger le mouvement de l'art. Je plutôt être là, ouvert ma petite fleur, cette petite moi, pour comprendre le grand l'univers. Dans mon travail, c'est vrai, souvent c'est un doux contrasté.
soit c'est noir, soit c'est blanc, soit c'est très haut, soit très bas, soit très chaud, très froid. C'est, tu vois, le poème de Louise Labbé.
Je vis, je meurs.
C'est le doux goûté, le doux fantastique qui me manifeste dans mon travail.
Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure, la vie m'est est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entre mes lits de joie, tout à un coup je ris et je larmoie, et en plaisir, maint grief tourment j'endure, mon bien s'en va, et à jamais il dure. Tout en un coup je sèche et je verdoie, ainsi amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur.
Le point de rencontre entre ton œuvre, ton parcours, Chuet, et celui de Louise Labbé, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il s'est fait dans le déplacement. Il me semble que Louise Labbé, c'est ça, avec l'idée du déplacement, d'une œuvre déplacée. C'est l'idée, alors, sans ce déplacement dans l'espace que tu as fait, qui est spectaculaire, elle a fait ce déplacement de sortir de son identité de femme de cordier, de sortir de son identité de femme, pour venir dans un monde d'hommes, dans un monde de création.
Une rôle dans l'autre rôle.
Tu expliques que ton œuvre est née de l'enrichissement des déplacements successifs que tu as vécu. Et Louise Labbé, qui avait aussi, comme toi, une sorte de volonté, de détermination à agir, à bouger, à faire bouger les lignes, peut-être à sortir du cadre, qui lui était assigné d'être une femme dans un espace domestique et dans un espace peu cultivé, normalement,
hein. Cheval, voilà. Avec le poème signé comme un homme.
Voilà, elle signe comme un homme, elle monte sur un cheval, elle vient publier ses œuvres, elle prétend les appeler œuvres. Il y a une force, il y a une énergie, qu'on sent chez toi et qu'on sent pareil. Enfin, on sent qu'on imagine à l'identique chez Louise Labbé, que c'est quelque chose qu'elle partage. Mais il y a un prix à payer. Et j'espère que toi, tu le payes pas de la même façon qu'elle au XXIe siècle.
C'est un prix à payer.
Le prix à payer, c'est le prix de la réputation. Donc Louise Labbé, d'avoir voulu sortir du cadre, sortir de son statut de femme, statut de femme d'artisan, elle a payé par une réputation gâchée. On l'a traité de tous les noms, on l'a insulté, de son vivant. Un des plus virulents, c'était Calvin. Des grandes voix qui ont essayé d'abîmer ce qu'elle était. Ça, c'est le prix à payer pour assumer un déplacement. Dans la société, on a des positions, et ces positions, elles sont fixes.
Oui.
Il faudrait qu'elles restent fixes.
Oui.
Et dès que tu déplaces les lignes... C'est douloureux, ça peut être douloureux.
Toujours.
Et donc Louise Labbé, elle a payé de deux façons. Elle a payé par une réputation donc noircie, abîmée. Tous les siècles ont répété qu'elle était une courtisane, une prostituée.
Ouais.
Bon. Et le plus grave peut-être des atteintes qui ont été faites contre elle, c'est lui retirer son œuvre.
Ouais.
Et donc ça, c'est vraiment très récent.
C'est quelle époque retirer son
œuvre? C'est là, en 2006, donc vraiment au XXIe siècle, qu'on a écrit ce livre, Mireille Huchon, écrit ce livre qui s'appelle « Louise Labbé, une créature de papier », où à partir d'une hypothèse, et si Louise Labbé n'avait pas écrit son œuvre, c'est l'hypothèse de départ, peu à peu, elle transforme son hypothèse en « Louise Labbé n'a pas écrit, c'est la plus grande supercherie du siècle ». Et du coup, la chose la plus grave qu'on puisse te faire, c'est te nier. Non seulement nier ta réputation, nier ton... Enfin, entacher ton honneur, mais là, carrément, voilà, annuler Louise Labbé. Et c'est le problème de cette venue dans un espace illégitime, la venue des femmes dans un espace qui est censé être illégitime pour elles. Le fait d'être devenue une femme de lettres, d'être devenue une femme publique, d'être devenue une femme publiée, c'était senti comme illégitime au XVIe siècle. Et encore aujourd'hui, alors que c'est quand même surprenant, avec Louise Labbé, ou avec les auteurs femmes en général, c'est qu'on ne lit pas leurs textes comme on lirait un texte d'homme. Et tout commence là, avec cette asymétrie du comportement du lecteur, du comportement de celui qui lit, qui va lire avec des critères et des évaluations différentes s'il sait que c'est une femme, au départ, à la création, l'origine de la création, ou s'il ne le sait pas. Et donc, il me semble que tout le problème de Louise Labbé, toute cette légende noire, tous ces problèmes qu'elle a eus et qu'elle a encore aujourd'hui, que l'œuvre a encore aujourd'hui, c'est l'asymétrie dont on est capable, nous, quand on lit son texte. Donc il faudrait idéalement, il faudrait être capable de lire un texte de Louise Labbé comme un texte de Ronsard, comme un texte de Raymond Queneau, comme un texte de Louis-Ferdinand Céline, en ne se posant pas la question d'emblée d'une légitimité de ce discours parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme.
Juste lire son œuvre, voilà. Comme il faut, comme il était.
Et ça, ça repose le problème de la place de la femme dans la société. Est-ce qu'elle est légitime à toutes les places qu'occupent les hommes ou pas? Et la seule chose qu'on peut dire, c'est lisons les vers de Louise Labbé.
C'était Louise Labbé, une artiste du Yunnan, avec Michel Clément, professeur de littérature française à l'Université Lyon 2, spécialiste du XVIe siècle. Xuefeng Chen, artiste plasticienne. Prise de son, Chantal Nouvelot. Mixage, Guillaume Ledu. Merci au Café Bellecour, à Carole de Saint-Étienne du Musée Gadagne. Attaché de production, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire d'Yves Bourget et Laurent Polleret. Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Dans quelques instants, le temps des écrivains. Et la semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, l'écrivain Maurice Saxe.